Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Il y a des anniversaires que l'on n'oublie pas. Les 1 an, parce que c'est le premier palier. Les 7 ans, parce que ça y est, on est des grands. Les 10 ans, parce qu'on a enfin 2 chiffres à notre âge et ça fait plus sérieux. Les 15 ans, parce qu'on est devenu d'un coup très stylé et très confiant. Eh bien, cette année 2025, vous savez quoi ? Le Labo des Savoirs a 15 ans. Et on a invité d'anciens et d'anciennes salariés de l'association pour cette émission en public. Après la nostalgie, les témoignages et les rires des bénévoles à la fin de la saison dernière, c'est parti pour une nouvelle émission Nostalgie, pour vos oreilles et notre plus grand plaisir. Pour les auditeurs et les auditrices les plus assidus, vous reconnaîtrez certaines des voix, et pour les plus jeunes, vous les découvrirez. Pour cette première émission de la saison, nous enregistrons en public au Grand Bain à Nantes, dans le cadre de notre Festival des 15 ans. Et nous avons la joie, l'honneur et le plaisir d'accueillir à nos micros Gabriel. Bonjour.
Bonjour.
Guillaume.
Bonjour.
Dounia.
Bonjour Célie.
Et Sophie.
Coucou Célie.
Alors tout le monde n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça qu'on les oublie. Une pensée toute particulière pour Cathy et Agathe.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
Alors, je vais beaucoup dire « on » parce que on a préparé cette émission à deux avec Pierre, qui est malade aujourd'hui, donc je vais être la seule voix de cette émission. Mais donc, on fait un petit peu tâche dans ce paysage de professionnels de la radio. On va donc vous laisser le micro pour ce début d'émission et nous permettre de finir d'écrire le conducteur, parce qu'en tant que bon bénévole, on est toujours un peu en retard. On a un petit peu travaillé quand même, donc vous avez une petite fiche devant vous qu'on va vous demander de lire pour vous présenter mutuellement. Et pour commencer ce bal, nous allons avoir une présentation de Dounia par Guillaume.
Et c'est parti, salut Dounia.
Salut Guillaume.
Alors toi, t'es une des dernières salariées du Labo des Savoirs, dernière en date, hein, puisque t'as terminé tes missions en juillet dernier. T'as occupé au Labo des Savoirs à peu près tous les postes et rôles, donc bénévole, salarié, chargé des partenariats de la communication, ça c'était entre 2019 et 2020, puis rédactrice en chef et directrice entre 2020 et 2025. Et donc là, t'es de retour sur le banc des bénévoles depuis cet été. Mais après ce marathon effréné au Labo des Savoirs, t'as décidé d'en commencer un nouveau. Donc là, aujourd'hui, tu vas être indépendante en gestion et production de projets de culture scientifique. Tu pourrais nous raconter ce que ça veut dire. Tu es également présidente du Café des Sciences et tu y organises le festival Double Science. Ça aussi, tu pourras peut-être nous en parler. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci pour cette présentation.
L'année 2017 a vu passer une éclipse annulaire en Patagonie et une éclipse solaire totale aux États-Unis. Et justement, Dounia, 2017, c'est l'année de ta première chronique au micro du Labo des Savoirs. On va donc écouter un petit extrait.
On est à une dizaine de jours de Noël. Vous avez peut-être qui va pas tarder à arriver ce fameux repas de famille. Vous allez être coincé entre deux. Oh non, non, merci, mais j'ai trop mangé. Et là arrive ce moment fatidique où votre oncle, un petit peu trop penché sur la bouteille, vous annonce « Ah non, mais moi je dis qu'on devrait pas donner des vaccins à nos enfants, c'est trop dangereux, on nous ment !» Et puis c'est faire le jeu de l'industrie pharmaceutique. Et là je vous sens prêt à bondir indigné, dégainant « Mais tu racontes n'importe quoi !» Et vous êtes tombé dans le panneau, dans le gouffre sans fin du débat d'opinion.
On voit que tu commences fort avec l'exemple du tonton bourré pour expliquer la méthode scientifique. Qu'est-ce que tu peux nous dire suite à l'écoute de cet extrait ?
Du chemin a été fait, de toute évidence. De mémoire, c'était une émission, c'est la première fois que j'avais un micro dans les mains, et c'était en direct, et c'était animé par Maxime Labatte. Autant vous dire que j'étais pas forcément dans mes petits chaussons, donc j'ai essayé de jouer un peu la carte de l'émission Réola. C'était une émission sur la bêtise humaine, enfin je crois, ou la bêtise sur... On était un peu bêtes. En fait, c'était une émission un peu bête, pas très prise au sérieux. Donc j'ai mis les deux pieds dedans et on va dire, on va voir ce que ça va donner. Et donc c'était pas forcément très sourcé, c'est ressemblé plus à un billet d'humour ou un billet d'humeur. Mais ça a permis de se familiariser un petit peu avec cet objet étrange qui s'appelle le micro et un studio radio. Et ouais, j'en garde un bon souvenir tout de même.
Merci beaucoup déjà d'avoir joué le jeu. Et je te laisse le micro pour, à ton tour, présenter Gabi.
Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, qui retrace un petit peu l'histoire du Labo des Savoirs. Tu es journaliste scientifique, réalisatrice, rédactrice en chef, formatrice, et le tout en trois langues. Car évidemment, tous ces beaux métiers ne suffisaient pas, et tu le fais un peu partout. Tu as travaillé pour la télévision, avec Arte et l'émission Roots, ou avec l'émission C'est toujours pas sorcier, entre 2019 et 2020. Et côté Labo des Savoirs, tu as été la rédactrice en chef entre 2011 et 2013, donc à ses tout débuts. Et pour reprendre tes mots, c'était une période très intense et très créative, avec une équipe d'une trentaine de bénévoles.
Tout à fait. Merci beaucoup, Dunia, pour cette présentation. Oui, j'ai eu vraiment ce plaisir d'être la rédactrice en chef du Labo de Savoir à une période qui était charnière. J'étais pas la première. Il y avait Aurélie Angot qui a travaillé pendant les deux premières saisons, en tant que rédactrice en chef et qui a fait un formidable travail. Aurélie, si tu nous écoutes.
C'est elle qui a trouvé le nom, Labo des Savoirs aussi, d'ailleurs.
Oui, et Guillaume qui était là aussi, hein, dès le départ, avec elle. Et moi, j'ai rejoint l'équipe pour la saison 3 et 4. Mais c'était un moment charnière parce que c'était le moment où l'émission est passée sur une émission qui était faite par des bénévoles. Avant, c'était Aurélie Angot, une jeune journaliste scientifique qui a produit ensemble avec l'équipe autour, dont Guillaume faisait partie, les émissions. Mais là, on avait une nouvelle approche, il fallait créer une nouvelle ligne éditoriale et recruter les bénévoles pour créer vraiment le Labo de Savoir comme il existe aujourd'hui. Et moi-même, je venais plutôt du monde de la télévision. J'ai travaillé aussi bien en Allemagne pour la ZDF, la BBC, Arte. Et j'avais fait une pause dans ma carrière aussi pour m'occuper plus de mes enfants. Et j'avais la chance de prendre ce challenge en main, de recruter cette équipe qui venait en grande partie aussi des cours que je donnais déjà à l'époque pour les doctorants à Nantes Université.
Eh ben, merci beaucoup pour ces présentations et ces compléments. Et comme tu peux t'en douter, on a aussi retrouvé ton premier passage au Labo des Savoirs. C'était dans l'émission Les sciences se communiquent en 2011.
Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, ce soir, le professeur Olivier Grasset, directeur adjoint du laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été l'une des personnes initiatrices et l'organisateur de l'exposition Voyage planétaire pour le grand public qui a eu lieu à la Cité des Congrès à Nantes. Quand vous êtes venu l'idée d'organiser cette conférence?
On tient également avec Pierre à remercier fortement Jérémy Frexas, bénévole de l'association, qui a fait tout un travail d'archivage des anciennes émissions, ce qui nous permet de vous faire écouter ce soir 2011, la troisième saison du Labo des Savoirs. Comme c'était à cette époque, il y a presque 15 ans maintenant, on te laisse le micro pour revêtir la casquette d'intervieweuse, et cette fois, tu vas nous aider à présenter Sophie, l'actuelle salariée de l'association.
Bonjour Sophie.
Bonjour Gabrielle.
Ça fait vraiment plaisir de se revoir ici.
Plaisir partagé.
Tu es journaliste scientifique et l'actuelle rédactrice en chef du Labo Savoir. Tu es journaliste surtout spécialisée radio, mais tu aimes toucher un peu aussi à d'autres médias, dont la presse écrite, le web, mais aussi d'expérimenter avec le documentaire et même la fiction en court-métrage. Tes thématiques que tu aimes bien, c'est toutes les sciences, mais surtout aussi la santé et l'environnement. Tu es ici au Labo de Savoir depuis 2021. Tu as commencé en tant que bénévole. Alors tu as vraiment comme ça fait l'expérience de travailler en bénévole et arriver après en tant que rédactrice en chef. Et tu encadres et fais même la technique de notre émission aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui je suis double casquette. Merci pour cette présentation, Gabrielle. C'est chouette de se faire présenter comme ça.
Eh ben, on connaît la routine. Tu n'y coupes pas non plus. Voilà une de tes premières interventions sur les ondes de Prune pour le Labo des Savoirs. Alors nous, on a choisi une émission des Utopiales en novembre 2019 dans l'émission Coder l'avenir. Et comme vous allez l'entendre, Sophie avait déjà besoin de parler de ce qui la passionne et de changer le monde.
Je viens aux Utopiales depuis presque 10 ans, donc j'ai découvert la SF quand j'étais toute jeune et je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 codes un peu surutilisés. Et déjà le thème de cette année c'est coder l'avenir, et alors moi parler de notre avenir aujourd'hui ça me fait penser du coup à la Sophie de 12 ans qui découvrait pour la première fois les expositions, les conférences, les ateliers, les projections de science-fiction. Et à cette époque 2019, bah, c'était mon avenir, et bon j'avais vraiment pas forcément envie d'y être, parce que pour moi tout aurait été plus simple si j'avais été dans un monde de science-fiction. Déjà parce qu'on aurait tous des costumes steampunk, et ça c'est quand même vachement stylé. Mais surtout parce que la science-fiction, c'est un monde où tout est plus grand, plus extraordinaire, plus fou. Les codes sont multiples, les univers infinis. Mais bon, comme je disais, parfois, il y a besoin d'un peu de renouveau.
Pour les personnes qui ne sont pas avec nous au grand bain, Sophie s'est cachée la tête et les yeux en écoutant cet extrait. Est-ce que tu veux... réagir.
Je vais me permettre de réagir. Je vois pourquoi c'est un des premiers extraits. Il y a un souci que j'ai encore parfois. Je parle extrêmement vite, très vite. Je suis pressée de parler, donc on comprend pas forcément ce que je raconte. Après, c'est mignon de m'entendre. Je me dis que c'était ma moi du passé, donc je vais respecter ce que j'avais écrit à l'époque. Mais bon, il y a pas beaucoup de science dans ce que je raconte pour l'instant. Il y a juste moi qui raconte ma vie. Donc j'espère que maintenant il y a plus de science quand je cause.
Et je profite de cet extrait pour vous rappeler que les Utopiales, le festival international de science-fiction, aura lieu cette année du 30 octobre au 2 novembre et que nous y serons. Et pour terminer la boucle, je te laisse la parole, Sophie, pour nous faire découvrir ou redécouvrir Guillaume, qui est là depuis les tout débuts de l'association.
Mais tout à fait, merci Célie. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Tu es donc sûrement l'un des plus anciens autour de la table aujourd'hui. Tu étais dans le bureau de l'association au moment de la création du Labo des Savoirs. Tu étais alors service civique. Je pense du coup que c'était vers 2010, si je ne m'abuse. Ensuite, tu as rejoint l'équipe salariée pendant 2 ans avant de te lancer en indépendant dans le journalisme scientifique, la radio, les podcasts. Et aujourd'hui, tu es producteur de podcasts documentaires. Donc, tu es resté pas loin de ce monde-là. Et tu reviens... 15 ans plus tard, pour nous raconter un peu tout ça.
Oui, c'était ça. Qu'est-ce que je peux raconter? Ben, ouais, j'étais content que tu mentionnes Aurélie Angot, parce que c'est quand même elle qui a lancé ce projet-là. Et effectivement, il y avait un moment charnière, celui où tu es arrivé, Gabriel. Mon Labo des Savoirs est devenu une asso à part entière, ce qui n'a pas été un moment simple.
Tout à fait. c'est normal, c'est souvent comme ça. Hein, quand c'est quand même un moment qui est critique. Il faut avoir plusieurs points de vue hein, qui parfois se frottent. C'est pas facile, mais comme ça on crée des compromis et on crée parfois plus qu'un compromis, mais quelque chose qui grandit et qui devient vraiment quelque chose de bien, je pense.
Oui, c'était compliqué parce que c'était une émission de Prune pour laquelle Prune avait obtenu des financements, notamment l'université de Nantes avait pu recruter une journaliste scientifique, donc Aurélie Angot. C'était la première fois sur cette radio, qui est une radio faite par ses bénévoles. C'est vrai, c'est un peu le programme de cette radio, c'est que des bénévoles font l'antenne très rapidement. Moi, quand je suis arrivé à Prune, c'était pour une émission l'histoire. Et deux semaines plus tard, j'étais à l'antenne. Du coup, je m'imaginais pas ça du tout en envoyant mon petit dossier à la rentrée. Et ça, j'espère que c'est toujours le cas au Labo des Savoirs. En tout cas, c'est ce qui me plaisait quand j'y étais, c'était que c'était très facile de rejoindre ce projet-là et très rapidement de se retrouver assez autonome, mais accompagné à l'antenne. Et donc, c'était une émission de prune. Et à un moment, ce projet a grossi en termes de financement. Et donc, il a fallu en faire une asso à part entière. Moi, c'était plutôt, c'était ça le moment charnière qui était pas simple à gérer avec prune. J'ai ce souvenir-là. Et puis après, Gabriel a lancé ce projet-là d'assaut à part entière avec des bénévoles, et puis ça a continué avec toujours une équipe très très grande. Et aussi une émission qui s'est retrouvée diffusée sur je sais pas combien de radios aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque c'était plus de 30, je crois.
Je pense pouvoir à un moment c'était même plus que, voire bien 50, plus que 30, même 50. Hein, ouais. Il y avait même une radio, je me rappelle, en Angleterre.
Et en Belgique, voilà, on avait la francophonie. Et peut-être pour finir et pas être trop long, moi le souvenir que j'ai de ce moment où j'étais rédac chef du Labo des Savoirs, c'était un moment où on essayait d'autres choses que l'émission. Peut-être toi, tu avais lancé ça aussi avec le calendrier de l'Avent mathématique. Donc voilà, c'était un espèce de jeu concours en décembre avec des énigmes de maths. On a refait ça, mais aussi avec Maxime Labatte qui a été très actif dans cette dimension-là de l'association Labo des Savoirs, des projets de médiation scientifique extérieure, beaucoup d'émissions radio en direct. Donc j'ai ce souvenir-là de ce foisonnement au-delà de l'émission qui était le socle de ce qu'on faisait, l'émission hebdomadaire, voilà, de plein de tentatives d'expérimentation autour de la radio et pas que. Une espèce de grande joie à essayer plein de choses. J'ai ce souvenir-là, moi.
Absolument. Pour moi aussi, le Labo des Savoirs, c'était vraiment le lieu d'expérimentation. De dire, c'est un laboratoire du journalisme scientifique. Je venais plutôt du journalisme scientifique professionnel, mais qui tombait dans une association en train de travailler avec beaucoup de bénévoles, mais pour moi une relance professionnelle à ce moment-là aussi. Et ça, c'était vraiment une période de grande créativité, expérimentation et grande joie de création ensemble. Et ça, c'est vraiment, je pense, ça continue aussi.
Alors, c'est pas parce que vous avez parlé longtemps que, Guillaume, tu vas échapper à nos recherches assidues de chroniques pour l'instant nostalgie. Pour cet instant-là, on a choisi l'émission Les sciences de la ville qui a été diffusée en 2015. Et en voici un extrait.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Labo des Savoirs, l'émission scientifique de la Radio Prune. Aujourd'hui, et comme chaque trimestre, une émission qui suit la thématique abordée dans Tête chercheuse, le trimestriel de l'actualité de la culture des sciences en Pays de la Loire. Et il s'agit ici du numéro 20 du magazine consacré aux villes, avec pour titre « Des villes habitables ». Et c'est ce sujet urbain qui sera notre thème ce soir, dans une émission intitulée « Les sciences de la ville » réalisée et animée par Thomas Prévreau et Guillaume Mézières.
Une petite réaction.
Ouais, j'ai eu peur que ce soit plutôt les premières chroniques en 2009-2010 qui ressortent. Mais bon, c'était 2015. Mais moi, j'avais commencé en tant que service civique. Je faisais une chronique qui s'appelait Le mot du jour, donc dans l'émission animée par Aurélie Angot. Voilà. Mais j'aurais été content de les réécouter aussi, mais ça me faisait un peu peur.
On n'a pas été fouillé malheureusement aussi loin. Et merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous. Et donc je vous propose de tourner cette petite page nostalgie, de faire une pause musicale de 3 minutes et on se retrouve juste après avec nos invités pour parler de la médiation scientifique d'hier et aujourd'hui.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
C'était Micro-Orange de Opinion et nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission exceptionnelle de rentrée avec les anciens et anciennes bénévoles de l'association pour parler de médiation scientifique. Alors la médiation scientifique, qu'on a longtemps appelée vulgarisation scientifique, est un sujet de société très important à nos yeux. La mission du Labo des Savoirs et de tous les acteurs et actrices du milieu, c'est d'apporter la connaissance scientifique, souvent opaque et élitiste, à tous les publics et de susciter la curiosité de toutes et tous pour des sujets divers et variés. Alors vous qui pratiquez ou avez pratiqué la médiation scientifique, qu'est-ce que ce terme signifie pour vous ? Dounia ?
Moi, j'aime bien faire la distinction entre le journalisme scientifique, la médiation scientifique et la vulgarisation scientifique. Pour moi, la vulgarisation, c'est un moyen, c'est une façon de transmettre des connaissances scientifiques en utilisant différents formats. La médiation, pour moi, c'est vraiment la pratique où tu es en contact et avec un retour du public. Où tu es un atelier face à des ados, des enfants, tu es médiateur ou médiatrice dans un centre de culture scientifique, tu présentes des expositions, où tu conçois des dispositifs où le public va interagir, va participer. Et après, il y a encore le journalisme scientifique où vraiment il y a cette question de la source, de l'information, de l'écriture, parce que tu peux être journaliste scientifique et ne pas vulgariser. Et tu peux vulgariser sans être journaliste scientifique aussi. Donc, il y a ces trois choses-là qui se superposent un petit peu suivant ton format, suivant tes sensibilités aussi. Et je pense qu'il faut prendre un petit peu des trois de toute façon. Il faut prendre un petit peu de journalisme scientifique quand tu vas avoir cette pratique aussi d'interroger tes interlocuteurs, d'aller chercher des sources. De la vulgarisation parce que tu veux que ton propos puisse être compris par le plus possible, et la médiation aussi pour réfléchir à comment et avec quel format aussi tu présentes ce que tu as essayé de vulgariser. C'est un peu gloubi-boulga, mais on essaie d'épatouiller la pelote de nœud.
Guillaume ou Gabriel, est-ce que vous avez des choses à compléter peut-être ?
Tout à fait. Je suis vraiment contente que tu fasses cette grande distinction entre la médiation et le journalisme scientifique, parce qu'un journaliste peut utiliser les techniques de la vulgarisation, les techniques de la médiation, de faire le lien entre le monde de la science et le grand public. Mais le rôle du journaliste, c'est surtout d'enquêter et après d'informer enquêter, hiérarchiser les informations trouvées, donner la parole aussi à plusieurs voix et informer sur les sujets qui sont impactants pour la société. Et c'est autre chose, et être libre. Cette liberté du journaliste scientifique ou du journaliste tout court, parce qu'un journaliste scientifique, c'est d'abord un journaliste tout court. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup parmi nous qui font un peu le deux, qui travaillent d'un côté autant que journaliste scientifique, mais qui participent aussi dans des actions de vulgarisation des sciences. Ça existe. Quand j'ai commencé moi-même dans le métier, on faisait vraiment une ligne très, très nette entre les deux. Je disais, il ne faut jamais mélanger les deux. Aujourd'hui, pour des raisons économiques, des modèles de... C'est le cas que beaucoup de collègues, dont moi aussi, ont fait les deux.
Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ouais, peut-être dans ce qui se disait, il y a quelque chose qui semble incomplet ou peut-être problématique dans l'idée de la médiation, des scientifiques qui produisent le savoir et après nous, médiateurs et différemment les journalistes qui serions là pour prendre cette connaissance et l'apporter. Enfin, il y a ce qui me pose problème là-dedans, c'est l'idée d'être comme éducateur ou quelque chose comme ça. Après, bon, il y a ce travail qui consiste bon, pour moi, j'ai l'impression, à raconter des histoires et puis à aider à transformer le regard, et que la science, elle est aussi là, enfin, dans ce que je trouve magnifique comme un outil de lecture sur le monde. Bon, il y a sa rigueur, il y a sa méthode, mais il y a aussi aller contre des intuitions, des ressentis, voir l'invisible. Donc, il y a plein de choses comme ça que je trouve assez magnifiques, mais ce que j'aime dans ce métier-là ou dans ces métiers-là de la médiation du journaliste, c'est comment on peut transformer un rapport au monde grâce aux sciences. Mais ce qui manque pour moi, c'est comment on s'adresse aussi aux scientifiques dans ce métier-là. C'est pas que les scientifiques qui produisent le savoir et on les aiderait à s'adresser au public, c'est aussi qu'est-ce qu'on adresse et quelles questions on adresse aux scientifiques eux-mêmes sur leur travail et leur position dans la production de ce monde. Et c'est ce que j'ai aimé au Labo des Savoirs, c'est aussi que c'était beaucoup des bénévoles qui venaient du monde de la science, qui venaient aussi avec des questionnements, peut-être des problèmes ou des choses à creuser sur leurs études, leur travail en tant que scientifique, et qui avaient envie d'explorer ça aussi, de parler aussi de leur propre de ce monde-là avec ses hiérarchies, ses codes, etc. La science, c'est pas qu'une méthode, c'est aussi une institution avec différents rapports de pouvoir, avec des désillusions des fois, des choses comme ça. Et en tout cas, moi, ce que j'ai aimé au Labo des Savoirs, c'est qu'il y a quelque chose qui s'adresse aussi aux scientifiques pour interroger eux-mêmes leurs pratiques. Voilà, je crois que c'est quelque chose avec lequel je suis ressorti, moi, de cette expérience du labo. C'est une frustration dans la façon dont les questions sont posées, quand elles sont posées en termes de dialogue science-société, qu'il faudrait réconcilier la société avec la science, que la société fait plus confiance et qu'il faudrait... Enfin voilà, je trouve que le débat, il est très vite résumé des fois. J'ai l'impression que c'est pas le savoir scientifique qui manque, que le savoir, il est là. En fait, il est disponible, il est accessible partout, mais que c'est pas... Que peut-être mon rôle, je le vois pas comme apporter du savoir supplémentaire pour que les gens enfin comprennent. Je pense que ce qui est l'enjeu, c'est de transformer un rapport à la science, un rapport de la science elle-même au monde qu'elle contribue à produire, en plein d'aspects. Voilà, donc c'est des questions un peu vastes, mais peut-être que dans cette idée d'apporter la connaissance au grand public, je trouve qu'il manque tous ces aspects-là. Notamment cette idée de qu'est-ce qu'on dit aux scientifiques et qu'est-ce qu'on a envie de changer dans la façon dont on fait science aujourd'hui.
Sophie ? Ouais, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, par rapport à cette idée de médiation aussi du côté des scientifiques. Alors, déjà, dans la première partie de ta question, Céline, moi, la médiation scientifique, souvent, j'ai l'impression de la recevoir quand j'interview des scientifiques et qu'ils m'expliquent des choses et qu'ils utilisent des métaphores et qui, de temps en temps, ils prennent vraiment le temps de vulgariser leur sujet, où moi, je suis jamais spécialiste puisque je suis journaliste. Donc, j'ai beau essayer de m'éduquer au maximum sur les sujets des scientifiques, ça reste eux, les spécialistes en face. Et donc, j'ai l'impression souvent d'être la destinataire de cette médiation, on va dire, de leur sujet. Et après, je fais comme je peux pour essayer aussi, moi, de transférer ces connaissances-là. Mais j'ai l'impression que, dans l'autre sens, il y a une médiation du journalisme. Par exemple, les scientifiques qui arrivent au Labo des Savoirs, souvent, ils n'ont pas forcément l'expérience du plateau radio. Ils sont peut-être soit timides, soit mal à l'aise. Pas tous, hein. Il y en a qui sont parfaitement à l'aise avec l'exercice, mais parfois j'ai l'impression que c'est une médiation à double sens, où les bénévoles ou moi-même, quand on est dans une émission, on leur pose des questions un tout petit peu hors de leur champ de recherche, on s'interroge sur des choses un peu plus globales, enfin on les fait bouger aussi dans leur manière de raconter la science, ou en tout cas leur métier, et que c'est aussi pas forcément agréable quand on n'a pas l'habitude, mais que ça leur permet de s'initier à la médiation en général, en tout cas à la... au rapport aux journalistes et au public. Et donc, le Labo des Savoirs, pour moi, est cette espèce d'espace où la médiation scientifique et la médiation journalistique, on va dire, a ces deux sens, pour ensuite une meilleure compréhension globale de plein de choses, et surtout des interrogations sur des sujets. Ça nous amène, moi, dans ma pratique journalistique, et les scientifiques dans leur pratique, je pense, à s'interroger aussi sur pourquoi on étudie ce sujet, comment on le raconte, et pourquoi c'est important et intéressant d'en parler.
Alors, c'est parfois cette activité de médiation, donc vous l'avez dit, ou de partage, elle peut être portée donc par des professionnels, elle peut être portée par les scientifiques eux-mêmes et elles-mêmes, quand et s'ils ont le temps, l'argent, l'accès à des médias. Elle peut être portée aussi par des amateurs ou des amatrices passionnées de science. Je fais un petit aparté pour vous conseiller cette émission sur les sciences amateurs qui a été diffusée il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous avez des choses à dire sur les perspectives qu'il peut y avoir sur des idées ou des réflexions sur la suite du journalisme, de la médiation scientifique, de la vulgarisation ? C'est quoi le futur pour vous de vos métiers.
Déjà, je veux souhaiter un grand courage à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le journalisme scientifique aujourd'hui. Parce qu'on a eu une crise des médias spécialisés, de la presse papier, il y a quelques années, qui perdure encore. Je trouve que c'est très difficile maintenant de pouvoir exercer son métier de journaliste scientifique, journaliste tout court et journaliste scientifique encore plus, aujourd'hui avec la concentration des médias qui existe et la difficulté pour des médias indépendants à perdurer et à pouvoir avoir une liberté d'information, une liberté de chercher des sujets et d'enquêter. Donc ça, déjà, c'est pas très joyeux, mais c'est un peu le constat que je fais aujourd'hui en 2025. Et je trouve qu'on a un peu les mêmes difficultés en médiation et en vulgarisation également, qui sont des métiers qui se sont professionnalisés aussi beaucoup ces dernières années, avec beaucoup de personnes qui souhaitent, et c'est heureux, de vouloir transmettre des savoirs, d'ouvrir des portes de laboratoires, vulgariser des articles scientifiques, voilà, de rendre la science accessible au plus grand nombre. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, dans le sens où les moyens accordés ne sont pas là, voire sont en baisse. Et aujourd'hui, quand on entend beaucoup de politiques dire que l'esprit critique est presque une cause nationale, où on voit après la crise du Covid qu'il est important de, imaginez que je fais plein de guillemets, redonner confiance à la science aux Français, alors que ça ne veut absolument rien dire d'avoir confiance en la science. Il y a un décalage qui se crée vraiment entre ce qui nous semblerait nécessaire, nous, dans notre milieu très fermé, de gens qui font du journalisme, de la vulgarisation et de la médiation, et la réalité des moyens qui peuvent nous être accordés à nos actions. L'avenir, sincèrement, bonne chance. Nécessaire, mais bonne chance. Il va falloir des gens passionnés, résilients, formés et militants, je pense, pour qu'on puisse continuer à exercer ces professions très variées.
Est-ce qu'il y a des remarques, des réflexions complémentaires ? Il n'y a pas d'obligation.
Si, si, je veux bien réagir. Je suis d'accord que c'est difficile aujourd'hui de se lancer dans le métier. C'est difficile de continuer à travailler dans le métier. Mais pour moi, c'est vraiment un des métiers le plus formidable. Ils sont importants à continuer à exister. On y arrive quand même. Et pour avoir quelque chose de positif, les sciences étaient longtemps confiées dans les rédactions scientifiques, qui sont très bas dans l'hiérarchie de l'information des médias. On parle d'abord de la politique interne, politique à l'international, on va parler de l'économie, on va parler même d'abord de la culture, jusqu'à ce qu'on arrive enfin en sciences. Ça, depuis Covid, ça a changé. Et ça a changé aussi sur les médias nationaux depuis 2023, comme juste comme un exemple, avec 5 collègues de l'AGSPI, l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, dont je fais partie, et Sophie fait partie aussi. Nous enseignons aux journalistes à l'antenne de Radio France, que ce soit France Inter, France Culture, France Info, mais aussi en région, en anciennement bleu, maintenant les chaînes d'ici, c'est que c'est la recherche scientifique, qu'est-ce que c'est la science, comment lire un papier scientifique, comment faire la différence entre un communiqué de presse et comment trouver un angle, comprendre ce que c'est la méthode scientifique derrière, et nous les mettons aussi en contact avec des chercheurs. La semaine prochaine, je vais avoir à nouveau une session, et nous les mettons aussi en contact avec des chercheurs qui sont spécialistes du changement climatique, de la biodiversité, de la santé, de l'énergie, l'agriculture, parce que ces journalistes qui sont normalement traité par ces sujets-là, aujourd'hui, ces sujets de l'énergie, le changement climatique, sont partout. Et que ce soit un journaliste qui est en charge des émissions de sport, c'est, il faut le prendre en compte avec la prochaine Coupe du Monde de football, parce que ça va faire très chaud, ou que ce soit un journaliste qui traite plutôt les thèmes juridiques. Pareil, aujourd'hui, toutes ces questions sont présentes et ils sont plus formés à ça. C'est vraiment, c'était une approche du tournant initiée par la directrice de Radio France, et plus que 200 journalistes à l'antenne de Radio France ont été formés. Et c'est juste un exemple. Je pense qu'il y en a d'autres initiatives. C'est vrai ce que Dunia a dit, la situation n'est pas rose du tout, mais il faut continuer à se battre. Il faut en continuer à... C'est important.
Sophie ?
Oui, je te rejoins complètement, Gabrielle, sur ces sujets, sur le fait qu'il y a beaucoup de sujets scientifiques, notamment environnementaux, qui sont sortis de la case science et qui sont désormais assez transversaux dans l'actualité en général. Sur le fait aussi que les journalistes, se forment ou sont formés de plus en plus pour les traiter, puisque c'est pas quelque chose que moi j'ai appris en école de journalisme. Par exemple, on a très peu parlé de science quand j'étais en école de journalisme et je suis sortie en 2021, hein, donc c'est assez récent. Mais il y a aussi des super initiatives. Tu as parlé de la formation des journalistes de Radio France. Je me permets de mentionner Expertise Climat, qui est une association qui met en lien les chercheurs, chercheuses, experts sur des sujets climatiques et biodiversité avec des journalistes. Et donc, on peut par exemple faire des visios sur l'état de l'océan avant un gros sommet sur la pêche avec un scientifique qui nous explique ce que lui connaît. Et en tant que journaliste, nous, on prend plein de notes et on arrive avec 2-3 billes ensuite pour traiter de cette actualité-là. Donc, il y a plein de choses super, effectivement, qui sont mises en place là-dessus. Bon, il y a aussi des programmes spécifiques traitant de l'environnement qui ont été sucrés de l'antenne à la rentrée sur plusieurs radios, notamment France Inter. Il y a aussi des initiatives qui marchaient très bien ou qui allaient marcher très bien, qui étaient en cours de route et qui ont été un peu freinées. C'est beaucoup d'aller-retour. On continue de se battre pour ça et pour en parler de plus en plus. Mais bon, mais quand il s'agit vraiment du journalisme scientifique un peu plus spécifique et où on s'éloigne un petit peu de sujets, on va dire, plus généraux, là, on peut rencontrer un peu plus de difficultés à publier des sujets. Mais après, peut-être c'est aussi un effort de traitement. Enfin, moi, je sais que souvent, on m'a expliqué que les propositions que je faisais en tant que journaliste indépendante à certains grands médias, donc j'essaie de vendre des sujets à des médias, et on me dit, c'est trop technique, c'est pas assez intéressant, c'est pas assez concernant. Et donc, c'est effectivement peut-être aussi une façon de présenter qui n'est pas forcément la bonne, donc je suis encore en train de m'interroger là-dessus. Mais il y a aussi des choses où, clairement, c'est peut-être aussi que ça fait un peu peur de parler de sujets très scientifiques, très pointus, et c'est peut-être moins sexy que d'autres sujets comme le sport ou la culture, et encore, ces sujets sont tout aussi importants. Donc ça reste quand même effectivement assez difficile, je trouve, de parler de science à tout le monde dans les médias généraux, même dans les médias spécialisés, puisqu'il manque aussi de moyens de plus en plus. Mais on peut complètement saluer, et je rejoins ce qui a été dit avant, le fait que maintenant l'environnement, la biodiversité et ces sujets-là sont beaucoup plus abordés par les journalistes généralistes.
Guillaume ?
Oui, moi, j'aurais envie de finir ce petit tour de micro en disant bravo la radio et bravo la radio bénévole. Enfin, je pense qu'il faut aussi trouver des lignes de fuite ou des bifurcations, et que peut-être que c'est pas souhaitable de travailler dans des magazines, de faire des articles sur le climat entre une pub pour un SUV et une autre pour une montre de luxe. Enfin, peut-être qu'il y a un problème aussi dans l'économie des médias et on le voit bien de ce qui s'est passé avec Science et Vie qui a été racheté et qui finalement il y a une ligne qui est posée qui est pas, je trouve, ce qui questionne la liberté journalistique, ou en tout cas, mais bon, c'est un questionnement qu'on pourrait projeter sur tous les médias, on le voit bien en ce moment. Donc peut-être qu'il faut trouver d'autres façons de faire, et que la radio, qui est un très très vieux média, continue d'être un espace, je trouve, de liberté, de bricolage. C'est possible de faire beaucoup de fiction et des choses très très belles avec assez peu de moyens par rapport à l'image. Moi, c'est ce que j'aime dans le son, et que les scientifiques se posent aussi ces questions-là. Enfin, il y a c'est encore des choses peut-être marginales, mais on pourrait imaginer qu'elles le soient un peu moins quand je pense à ces scientifiques qui, au moment de recevoir leur diplôme, disent ne pas vouloir aller occuper les postes qu'on leur promet, et voient ces endroits de dissonance. Donc il y a de plus en plus ce discours-là qui commence à sortir de la part des étudiants, ingénieurs ou scientifiques. Donc peut-être que les journalistes, les médiateurs, en tout cas tous les gens qui travaillent dans ces qui sont commensaux des professions scientifiques doivent aussi se poser ces questions-là et trouver aussi des façons de des modes de bifurcation et peut-être d'imaginer aussi d'autres façons de faire science, d'autres façons de faire du journalisme scientifique, peut-être en dehors, un peu plus en dehors de l'université ou de certaines institutions, avec un pied dedans, un pied dehors. Et je pense qu'il y a pas beaucoup de scientifiques qui inventent ça, et peut-être que les journalistes aussi doivent essayer d'inventer des façons de faire du journalisme scientifique un peu dans les médias, mais aussi en bricolant par ailleurs et en trouvant d'autres ressources.
2021, donc la loi de programmation de la recherche, mais 2021, c'est aussi l'année qui a suivi la première épidémie de Covid. Et il semble du coup difficile de parler de cette période sans aborder la question du traitement médiatique de la recherche, qui est un peu mise en branle pour séquencer le génome du SARS-CoV-2 et développer un vaccin ARN en un temps assez record. L'autre face de la pièce, c'est l'ultra-personnalisation des chercheurs, avec notamment des profils comme le professeur Raoul qui ont accaparé l'espace médiatique, répandu des fausses informations au sujet de cette maladie. Donc le sujet de la santé, c'est pas vraiment le seul à nécessiter de la vulgarisation. Il y en a plein d'autres. Est-ce que, selon vous, il y a un manque de médiation scientifique à ce sujet? Et également, est-ce que le Covid a changé, enfin, en tout cas cette période de pandémie, a changé quelque chose dans la façon de faire de la médiation? Gabrielle.
Oui, tout à fait. Je pense que ce moment, cette période de confinement qui a mis en place, et aussi la pandémie qui a généré aussi pas seulement la pandémie mais aussi une infodémie qui s'est déclenchée aussi avec des fausses informations qui se sont répandues aussi rapidement que le virus même. Ça a mis à jour des problèmes qui se sont accumulés pendant des années. Je pense sur les 20 dernières années avant, il y avait déjà la tendance que les médias, ça allait de moins en moins bien, les journaux étaient moins vendus, et très vite, quand il y avait des coupures, ça tombait sur les journalistes scientifiques. Dans beaucoup de médias, la décision était prise qu'on n'avait plus vraiment besoin d'avoir les journalistes scientifiques à l'intérieur des rédactions qui pourraient travailler de chez eux, et on va les encadrer soit par l'économie, soit par la culture, soit par l'actualité. Et quand la pandémie a commencé, il y avait quand même beaucoup de rédactions qui se sont rendues compte on n'a plus des spécialistes dans nos rédactions qui peuvent bien traiter ce sujet. Ça a eu un effet à la suite assez éveilleur qui a même amené des rédactions à re-embaucher des journalistes à l'intérieur de la rédaction. Ça a mis en place par exemple ces formations que nous sommes en train de donner. Ça a amené aussi un changement dans nos pratiques. Dans nos pratiques du journalisme, c'est devenu quand même beaucoup plus stressant de travailler aujourd'hui. Il faut travailler beaucoup plus vite que quand j'ai commencé dans le métier il y a plus que 30 ans maintenant. On avait plus de temps de faire les recherches, plus de temps d'aller sur le terrain, de proposer des choses qui étaient variées. Et c'était devenu quelque chose qui est devenu vraiment beaucoup plus rapide, plus mécanique. Et cette période de Covid était révélateur là-dessus aussi. Et qui a amené, par exemple, que tout d'un coup, je pouvais travailler de chez moi ici à Nantes. Tout d'un coup, voilà, c'était possible de travailler chez moi. C'était possible d'encadrer l'équipe, c'était possible de faire des tournages, de visionner. Toutes les techniques étaient là. Et là, c'est un côté positif qui est quand même aussi resté post-Covid, que certaines de ces techniques sont restées en place et on continue à les utiliser.
Sophie ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a changé depuis le Covid, c'est quelque chose que moi j'ai réalisé, et j'ai l'impression, et le grand public et certains collègues, mais je vais parler en mon nom pour être sûre de ne pas faire de généralité, c'est remettre en question les bons clients. Bon, alors les bons clients, c'est une expression nulle que j'aime pas et qu'on utilise un peu parce qu'on voit très vite ce que ça veut dire, mais on a tendance, en tant que journaliste ou en tout cas dans des rédactions, à avoir un carnet d'adresses de personnes qu'on sait sollicitables rapidement sur des sujets établis. Donc si on veut faire un sujet sur le vaccin, on va appeler toujours docteur machin. Si on veut faire un sujet sur mon chien qui m'a mordu, est-ce que c'est grave, ou les piqûres de moustiques, on appelle un tel ou un tel. Et donc il y a comme ça, notamment dans le domaine scientifique, des scientifiques bons clients, on va dire, qui sont repérés par les journalistes ou les rédactions, qui savent qu'en cas d'actualité où il faut pouvoir réagir très vite, donc dans la journée, c'est sûr, parfois même dans des demi-journées ou dans quelques heures, il faut trouver quelqu'un qui intervient à l'antenne pour expliquer quelque chose, donc on a toujours un peu les mêmes personnes. Ces personnes-là sont interviewées sur des sujets qui parfois ne sont pas les leurs, ou ne sont plus les leurs, ou des sujets qui sont un peu généraliste, et ils deviennent un peu toutologues. Ils parlent un peu de tout ce qu'il faut parler dans les médias et qui sont pas forcément leur sujet de recherche. Et j'ai l'impression, mais c'est peut-être moi qui m'imagine et qui rêve de ça, que comme on a interviewé beaucoup de personnes qui n'y connaissaient rien sur le Covid, à raison, puisque personne n'y connaissait rien, on s'est aussi rendu compte.
Il y avait quand même des spécialistes.
Il y avait des spécialistes.
Et après, qui étaient un peu plus tard repérés aussi. Ils étaient sursollicités souvent.
Donc après, ils ont été sursollicités. Mais au tout début, c'est pas que personne n'y connaissait rien, c'est que on savait pas encore à quoi on avait affaire. Donc on va dire que ceux qu'on interviewait par défaut, forcément, on n'avait pas forcément les infos, puisque c'était très récent et que eux-mêmes n'étaient pas spécialistes à ce moment-là. Et donc j'ai l'impression que ça a permis de se rendre compte, en tout cas peut-être à une plus grande échelle, qu'un scientifique ou une scientifique n'a pas les réponses à tout dans le domaine scientifique, et qui ne sont pas interchangeables, et que quand on interviewe quelqu'un pour répondre sur un sujet scientifique, il faut s'assurer que cette personne travaille sur ce sujet, fait de la recherche sur ce sujet, fait de la pratique sur ce sujet, et qu'il y a deux, trois cartes jokers assez pratiques dans les médias qu'on ne peut plus voir, qu'on ne veut plus voir, et qui sont trop faciles, on va dire, pour répondre à ces sujets. Alors je ne sais pas si ça a vraiment changé depuis la pandémie de Covid, en tout cas d'un point de vue personnel, moi ça m'a éveillé à ce truc-là, et maintenant je vérifie, notamment pour le Labo des Savoirs, quand j'interviewe ou qu'on choisit en ensemble avec les bénévoles, un ou une intervenante, on regarde si ça correspond bien au sujet que cette personne traite au quotidien, et on fait une pré-interview en amont de l'émission pour être sûr que parler de tel ou tel sujet, ça correspond à ses connaissances et qu'on n'est pas sur un truc totalement à côté de la plaque, pour rester le plus pertinent possible.
Gabriel. Très très bien, c'est vraiment vraiment important. Et on dit parfois aussi, les chercheurs, ils savent beaucoup de choses sur peu de choses. Ils creusent en profondeur. C'est ça leur travail. Il faut qu'ils repoussent la barrière du savoir sur quelque chose qui est très spécialisé. On ne peut pas juste les interchanger entre eux. Mais nous, en tant que journalistes, bon, nous, on sait peu de choses, mais sur beaucoup de choses. Et c'est vraiment le contraire.
Exactement. Alors, on arrive bientôt à la fin du temps qui m'est imparti, même si j'aurais bien aimé vous entendre parler encore un peu plus longtemps. Juste pour terminer, j'aurais bien aimé savoir ce que votre expérience, votre passage au labo vous a apporté et vous apporte peut-être encore dans votre pratique actuelle. Et puis également, si vous aviez une ou deux recommandations à partager sur des livres, des émissions, des documentaires, des podcasts ou des sources que vous aimez aller fouiller pour avoir des informations, notamment scientifiques. Si c'est une question piège, vous avez le droit de l'éviter. Sophie ?
Je vais commencer parce que je suis encore au Labo des Savoirs, donc c'est plus facile de faire un bilan parce que je suis encore dedans. Il y a plein de choses que j'ai appris au Labo des Savoirs et que je continue d'apprendre. Moi, une de mes plus grandes joies, c'est de faire des conférences de rédaction avec des bénévoles qui ont toujours des idées géniales et qui me permettent de sortir de moi mes idées un peu classiques aussi de journalistes scientifiques qui traitent l'actualité parfois toujours un peu de la même manière. Je vais citer cette fameuse émission sur le houmous qui maintenant est devenue un peu célèbre, où parfois les bénévoles veulent faire une émission sur un sujet particulier et notre réponse est toujours la même, ok, faut des sources, et ils ont trouvé des super sources et on a fait une super émission, en tout cas ils ont fait une super émission sur le houmous. Et donc un des grandes choses que je retiens de cette expérience Labo des Savoirs, c'est que toutes les idées et toutes les sciences et tous les sujets sont intéressants à traiter du moment qu'on les raconte bien et qu'on les raconte avec passion, en trouvant les personnes, les intervenantes et les intervenants qui savent de quoi ils causent, puisqu'en plus souvent ils le racontent encore mieux. Et donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et alors en source ou ressources, Je vais continuer de réfléchir parce que j'en utilise des très variés. Mais voilà, j'ai pas de nom à donner tout de suite. Je reviens vers vous.
Guillaume ?
Moi, j'en retire cette grande joie à faire des expériences sonores et radiophoniques. Donc, je parlais tout à l'heure. Et encore une fois, il est vraiment possible de créer des mondes juste avec des sons, donc avec assez peu de moyens, beaucoup moins de lourdeur que l'image, je trouve. Donc j'en retire ça. J'en suis parti aussi avec l'idée d'essayer d'aller un peu plus loin que l'effet waouh que je vois un peu trop souvent, je trouve, dans le journalisme scientifique. C'est avant on pensait que, maintenant on sait que, et c'est waouh. C'est, enfin, j'aimerais bien. J'essaie de trouver d'autres formes d'approche de la science, même si cette approche-là est super. Je parlais du plaisir qu'il y a à raconter de belles histoires et à transformer le regard. Ça existe aussi, cette joie-là. Mais je pense que j'aimerais bien que la médiation scientifique ou journalisme scientifique reste pas que dans cet endroit-là du waouh, c'est génial. Et j'ai pas trop de sources à conseiller, mais plutôt un appel à rejoindre quelque chose que j'essaie de faire un peu là, moi, en ce moment, mais enfin, j'ai essayé là, sur scène, de créer des fictions autour des sciences, d'imaginer les sciences telles qu'elles pourraient être. En tout cas, j'avais fait une émission de radio sur scène où à la fin, j'ai interviewé des scientifiques, mais en leur disant, bah, on est 15 ans après, il s'est passé plein de bouleversements formidables, et du coup, vous continuez à faire de la recherche, mais maintenant, c'est mieux. Du coup, à quoi ça ressemble. Et je proposais même aux scientifiques de prendre un pseudo pour comme ça ils pouvaient s'exprimer sans avoir à passer par leur service de communication qui vient surveiller la parole. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un truc assez réjouissant là-dedans à imaginer, à faire de la science-fiction, mais la science-fiction qui imagine d'autres façons de faire science et d'autres questions. Vinciane Després a fait ça, en fait, c'est parti d'une adaptation que j'ai fait d'un livre qu'elle a écrit. Elle-même est inspirée d'une autrice qui s'appelle Ursula Le Guin, qui s'appelle Autobiographie d'un poulpe, où elle imagine des sciences qui n'existent pas encore, et elle imagine des scientifiques qui posent d'autres questions au monde, qui partent d'autres postulats, d'autres paradigmes. Mais voilà, je vais faire court et en rester là sur la description du livre. Mais en tout cas, moi, ça m'a inspiré l'idée de faire des fictions radiophoniques et d'imaginer des sciences telles qu'elles pourraient être. Et aussi, c'est une façon de faire venir des scientifiques et de sortir un peu de cette double casquette, je trouve, qui est un peu bloquante des fois, des scientifiques qui soit mettent la casquette de citoyen, soit la casquette de scientifique, mais disent pas la même chose. Et ça, je trouve qu'il y a toujours un truc un peu dissonant. Et quand on est dans la fiction, et ben les scientifiques peuvent imaginer à quoi ressemblerait leur passion, leurs questions posées au monde, mais si c'était mieux et s'ils pouvaient travailler d'une manière qui leur semble désirable. Ça, je trouve ça assez chouette. J'aimerais bien voir ça plus. Alors, c'est un appel à contribution.
Gabriel ?
Personnellement, je retiens vraiment la grande joie de création, d'expérimentation que ce Labo Le Savoir nous avait permis avec toute l'équipe de bénévoles, avec Guillaume. Comme tu disais, c'est beaucoup plus léger, il y a moins de risques avec le son qu'avec l'image, et en même temps c'est un peu magique parce qu'avec des mots on peut créer des images dans la tête des personnes qui nous écoutent. Moi qui venais vraiment de l'audiovisuel, je suis repartie dans le monde de l'audiovisuel, mais c'était vraiment toujours, mes parents disaient, on va faire du cinéma dans la tête des personnes qui nous écoutent. Et ça, vraiment, c'est une grande force. Et ici, au Labo de Savoir, vous avez cette liberté d'avoir aussi le temps, pendant une heure, de pouvoir développer un sujet. Vraiment, je souhaite, prenez ça à fond, faites-vous plaisir, expérimentez avec des nouvelles narrations, comme Guillaume dit aussi, parce que vous avez la possibilité de vraiment tester, de vous faire plaisir à vos auditeurs. Voilà, c'est vraiment mes souhaits aussi pour l'avenir. Et pareil, bénévoles, si vous entendez, poussez la porte du Labo Le Savoir, on disait ça, découvrez ce monde des savoirs et le journalisme scientifique. C'est pas qu'on veut vous transformer tous en journalistes scientifiques, c'est pas du tout le but, mais vous allez en sortir différemment, avec un autre regard. Vous allez mieux comprendre comment fonctionnent les sciences, mais aussi comment fonctionne le journalisme. Et certains de nos bénévoles sont restés dans une carrière académique. Je pense à Erwin Deouk, qui est devenu enseignant à l'université Lyon 1, je pense.
T'es partie aux États-Unis avant.
J'étais partie aux États-Unis, mais aujourd'hui, qui est voilà, enseignant, chercheur, ou d'autres qui se sont lancés dans la médiation, mais d'autres qui ont fait leur chemin dans de différents métiers, mais c'est vraiment un enrichissement. Alors je vous souhaite de venir, la porte ici, je pense, est toujours ouverte.
Dounia,
pour finir, je vais recouper un peu sur ce que tu as dit, mais en fait, la possibilité qu'on a en étant journaliste scientifique au Labo des Savoirs, qu'on soit salarié ou bénévole, c'est poser des questions. Et ça reste un espace où on peut à nouveau reposer des questions à des scientifiques, à des experts et des expertes, à toute personne qui est susceptible de nous apporter quelque chose. Et je trouve que c'est très précieux dans le monde dans lequel on est actuellement de pouvoir continuer à poser des questions. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux et ça rejoint ce côté un peu expérimental et bienveillant aussi qu'on a au Labo des Savoirs de... on vient curieux, on vient poser des questions, avoir des idées, faire des émissions sur le houmous. Voilà, c'est un espace de liberté, d'échange et de curiosité. Et c'est ça, on réapprend à poser des questions et à s'en poser du coup soi-même et à rester curieux. Pour les sources, c'était une question un petit peu difficile, mais je vais répondre un peu à côté, mais je vais vous dire de lire tout sauf des sciences, en fait. De continuer à lire de la science-fiction, du fantastique, des essais, et de se nourrir autrement que par les sciences, et c'est ça qui va faire aussi de vous de bons vulgarisateurs, médiateurs, médiatrices ou des journalistes, c'est de se cultiver avec tout ce que le monde et la culture peut nous donner, et c'est comme ça qu'on pose les bonnes questions.
Et bien sûr, ces beaux mots, je vais clore cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre, Dounia, Sophie, Guillaume et Gabriel, d'avoir pris ou repris le micro sur les ondes du Labo des Savoirs. Ce fut encore une fois un plaisir et un honneur d'échanger avec vous pour cet événement des 15 ans et pour ouvrir magnifiquement cette nouvelle saison. Cette émission a été préparée par Pierre Martin et Célie Dubost, animée par Célie Dubost et réalisée par Sophie Paudouin. Et vous pouvez la réécouter sur vos applications de podcast et nous retrouver sur labodessavoirs.fr et nos réseaux sociaux. Et nous, on vous dit à dans 2 semaines pour une nouvelle émission.
FM.